Bien-aimés frères et sœurs, cordialement, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi des salutations à tous ceux qui sont en ligne. Et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Tous, nous, tel que vous l'avez tous remarqué, notre bien-aimé frère Franck n'est pas ici corporellement, mais il est en esprit ici lié avec nous. Et aujourd'hui, nous l'avons visité avec frère Schmitt. Il va déjà beaucoup mieux. Il est encore un peu faible dans le corps, mais nous faisons confiance au Seigneur, que le Seigneur parfaitement le rétablira. Je voudrais, pour commencer, d'abord, avant que le frère Thomas vienne et chantera quelques cantiques avec nous et lira une parole d'introduction, je voudrais remettre cette attention que le frère Frank a adressée à nous tous. Salutations du frère Frank. Soyez cordialement salués dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis seulement en esprit parmi vous. Aujourd'hui, dans le corps, je suis faible, quoique ma voix serait assez forte pour prêcher la précieuse parole de Dieu. Nous nous tenons très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ et une nouvelle phase va s'introduire. Je vais en parler la prochaine fois. Nous vous remercions de ce que vous êtes venus de loin et de près. Merci pour toutes vos prières. Aussi, aujourd'hui, la parole de Dieu produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Dans l'amour de Dieu lié les uns avec les autres, frère Franck. S'il te plaît, frère Thomas. Nous voulons ensemble chanter le numéro 5. Quel ami est notre Jésus? Numéro 5. Chantons encore le numéro 29.
O Jesus, du Heiland der Welt. Lied Nummer 29.
Numéro 29.
Lasst uns noch, bevor wir
ein
Erneutungswort aus Hiob lesen, Chorus Nummer 14 anstimmen.
Chantons encore le numéro 14. Encore le numéro 8, crois seulement, crois seulement. Amen.
Ja, wir wollen am Glauben festhalten.
Nous voulons nous attacher à la foi qui nous a été transmise.
Auch heute Abend,
encore ce soir, je voudrais comme introduction lire une parole dans Job chapitre 33, parole très connue. Job chapitre 33, et ensuite le frère Rainer Donda priera.
Job chapitre 33,
Job chapitre 33.
Die bekannten Worte von
les paroles
Vers
connues
23.
À partir de verset 23.
Wenn dann ein Engel für
Mais
s'il
se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, tu as compassion de lui et dis à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Loué soit le Seigneur, nous aussi nous pouvons dire, j'ai péché, mais le Seigneur m'a fait grâce et a délivré mon âme pour qu'elle n'entrera pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Nous vivons dans un temps, du temps du soir, et la lumière a paru. Nous avons la grâce de marcher dans la lumière de sa parole qui nous a été révélée dans ce temps. Et nous attendons du Seigneur qu'il puisse ce soir nous accorder tant de choses que nous puissions aller pas à pas avec lui, pas le dépasser. Nous attendons de lui sa nourriture. Il est écrit dans les psaumes, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Et si nous lisons ici, Dieu a sauvé mon âme, a délivré mon âme de la fosse. Comment ne devrions-nous pas l'aimer et vivre pour lui, lui qui a accompli tout sur la croix à Golgotha pour nous. Nous nous levons pour la prière que le Seigneur nous bénisse richement ce soir. Notre Père Céleste, dans la certitude que nous sommes devant ta présence, nous savons que nous avons un avocat au ciel, nous savons que tu vis et que tu nous as fait grâce. Ce soir, nous te remettons notre frère. Nous savons qu'il est entre tes mains et qu'en toi, il est réfugié. Nous croyons en te faisant confiance que tu le guéris. Nous qui sommes ici, nous te faisons confiance de ce que tu touches notre âme, nos âmes. Et que tu nous accordes ta grâce, car nous avons lu et nous croyons que nous avons la grâce est en toi. Parce que il est écrit, ceux qui font leur confiance, qui mettent leur confiance dans le Seigneur, renouvellent leur force et s'élèvent comme des aigles. En cette heure, nous venons à toi dans la certitude et dans la foi que tu es capable d'accorder tout au-dessus de toute compréhension et attente. Dans toute la confiance, nous ouvrons nos cœurs. Que tu puisses nous bénir, mon Dieu, et ne pas nous laisser partir comme nous sommes venus. Que nous te remettons ce soir, cette réunion entre tes mains, soit avec nous dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends encore, tu es digne, tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Beaucoup ont appelé et ont demandé les nouvelles de notre frère Franck. Et beaucoup ont envoyé aussi des salutations. Nous avons aussi des requêtes sérieuses, plusieurs requêtes sérieuses, bien sûr, que nous portons les serviteurs de Dieu en tout temps, en prière, car ils ont une grande responsabilité devant le Seigneur. Et nous savons que le Seigneur va le relever et faire toutes choses bien. Mais d'abord, je voudrais vraiment vous saluer tous et vous souhaiter à tous les bienvenus de loin et de près dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me réjouirai si quelques-uns qui sont ici pour la première fois se lèveraient pour que nous puissions particulièrement leur souhaiter les bienvenus. Avons-nous des frères et sœurs qui sont ici pour la première fois parmi nous? Oui, là-bas une sœur, ici un couple, là-bas derrière toute une famille, encore une sœur ici. Nous vous souhaitons à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Oui, bien sûr que nous sommes tous dans une grande attente que le Seigneur ce soir nous parlera à notre cœur. Vous voyez, ma moindre personne ici, un doit se tenir devant, mais il ne s'agit pas de l'homme, il s'agit de notre cœur. Avec quel désir nous sommes venus ce soir? Est-ce que nous voulons une rencontre avec le Seigneur? Est-ce que nous portons ce désir en lui, en nous? Alors le Seigneur répondra, il ne s'agit pas d'un homme. Le Seigneur est présent, il a donné la promesse. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur est ce soir parmi nous. Et je pense seulement aux Actes des Apôtres. Je pense au chapitre 10, dans la maison de Corneille. Alors qu'il avait reçu de l'ange l'ordre d'envoyer des hommes à Joppé pour aller chercher l'homme qui s'appelle Pierre. Et quand ils se sont rassemblés tous, ils étaient dans une telle attente. Bien-aimés frères et sœurs, Pierre a tenu une courte prédication. Il a seulement rendu témoignage du Seigneur. Et ils reçurent le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Parce qu'ils étaient déjà venus dans une attente, avec un tel désir. Ils savaient qu'ici un homme va nous prononcer les paroles de Dieu qui nous apporte le salut. Et si nous venons dans cette attente, bénis frères et sœurs, nous serons bénis de cette manière. Ça dépend de nous, de notre disposition. Ça ne dépend pas du prédicateur et non plus de la parole. Ça dépend de nous, notre disposition personnelle, avec quel désir nous venons dans la maison du Seigneur. Ce soir, c'est là que cela a été décidé. Nous allons voir deux émissions de télévision que le frère Franck a tenues et qui ont été une bénédiction pour beaucoup. Je ne sais pas si plusieurs les ont déjà vues. Je crois que la plupart de nous les ont jamais vues et seront une bénédiction. Nous allons tout à l'heure descendre pour pouvoir descendre le rideau pour pouvoir descendre l'écran, pour pouvoir donc suivre. Avant que nous le fassions et que nous prions pour les malades, je voudrais d'abord remettre les salutations car les frères et sœurs se sentent liés avec nous. Ils ont part aux réunions, ils voient en ligne et maintenant beaucoup sont liés avec nous, seront liés avec nous. Nous avons ici les frères et sœurs Olviti de la Finlande, salutations du Kazakhstan, Karadanga, de l'Ukraine, des salutations de la Russie, des salutations du frère Moïse de Denver, Colorado, frère et sœur, le frère Gratian de Ashdod en Israël, frère de la Côte d'Ivoire, frère Jacques, le frère Sylvain Bakongo de la République du Congo. Nous avons une salutation du frère Christian de Ottawa du Canada, salutation de Gerard Kaginda du Congo, ensuite le frère un frère du Burundi. Ce sont des noms difficiles pour nous. Ce sont des frères et sœurs qui sont liés avec nous, le frère Ferry de Lugan, salut. Oui. De l'Hongrie, salut. Ensuite, le frère du Catania. Ensuite, des salutations du Congo, du Burundi. Beaucoup, beaucoup ont écrit ou bien ont même appelé. Nous ne pouvons pas dire mentionner tous les noms, mais ces frères et sœurs sont liés avec nous et remettent les salutations fraternelles. Nous nous réjouissons de ce que tous ont part à la prédication de la parole et qu'ensemble, nous expérimentons notre préparation. Ensuite, nous avons des requêtes sérieuses. C'était le souhait du frère Rousse que nous puissions particulièrement penser à lui. Il a été amené à l'hôpital et il disait que la volonté du Seigneur soit faite. Et ça aussi, nous voulons ainsi de cette manière remettre tout au Seigneur. Le Seigneur sait ce qui est bien pour ses enfants et mieux pour ses enfants. Nous allons simplement remettre aussi le frère Rousse entre les mains de Dieu. Le Seigneur fera toutes choses bien. Ensuite, de la Russie, une mère qui souhaite Adam que son fils soit sauvé. Nous voulons aussi remettre cette requête au Seigneur. Ensuite, de la Roumanie, un frère qui a des problèmes donc de santé, le frère Serbé de Cluj, ensuite aussi de la Roumanie, la sœur de Cluj, ainsi beaucoup d'autres requêtes qui sont présentes. Nous allons maintenant les apporter devant le trône de la grâce. Nous nous levons pour le faire et le frère Schmitt va prier et ensemble nous allons ensuite remettre tout au Seigneur. Grand Dieu, toi Dieu Tout-Puissant, Dieu présent, toi qui as détendu tes mains sur la croix à Golgotha, tu as porté toutes nos maladies. Nous te remercions. Tu as entendu toutes les requêtes et les noms, tu as entendu les noms. Toi seul es celui qui peut toucher chacun. Toi seul es celui qui a dit sois pur et il fut pur. Ô Dieu, bénis, sauve, guéris, ô Dieu, et manifeste ta puissance. Nous te le demandons, pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, à cause de toi, pour que ton nom soit glorifié et élevé. Nous te remercions pour cela, ô Seigneur. Amen. J'entends encore quelques chœurs. Vous pouvez vous asseoir. En temps, les frères vont faire descendre l'écran. Préparer l'écran. Nous allons donc suivre les prédications. Le numéro 2, je l'aime. Je l'aime. J'entends encore.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern,
Mesdames et Messieurs,
Christo, werte Freunde,
Frères et Sœurs en Christ, bien-aimés amis, je vous salue très cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Pour moi, c'est un privilège de parler avec vous de Dieu et du plan du salut merveilleux de Dieu avec l'humanité. Mon nom est Frère Frank. Je suis déjà connu et porte aussi la responsabilité pour cette émission. Il s'agit toujours de nouveau des mêmes sujets. Nous n'avons déjà qu'une seule Bible. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, les promesses ont été données. Le plan du salut a été ainsi annoncé à l'avance. Et dans le Nouveau Testament, tout ce qui a été à l'avance annoncé dans l'Ancien Testament est prédit, s'accomplit. Les sujets restent les mêmes. Non, il s'agit de nos expériences personnelles avec le Seigneur. Et elles doivent avoir la première place, car quand nous lisons dans l'évangile de Jean, nous trouvons déjà dans le premier chapitre le ministère de Jean-Baptiste. Ensuite, nous trouvons notre Seigneur lors des noces de Cana en Galilée, où il fit donc le premier miracle. Mais tout de suite, dans le chapitre 3, où notre Seigneur commence avec la première prédication, avec son ministère, il dit déjà en élevant la voix et en disant à Nicodème et ainsi en nous disant cela à nous tous, si ce n'est que quelqu'un naisse d'en haut, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. À quoi est-ce que ça sert de prêcher sur le royaume de Dieu et de chanter le royaume de Dieu si nous n'avons pas encore personnellement fait l'expérience qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu personnellement par la nouvelle naissance? Et c'est justement ici le sujet dans lequel nous sommes déjà. Tel qu'un homme, de manière naturelle, vient ici dans ce monde par une naissance et ainsi vit sur terre, c'est ainsi qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau par le Saint-Esprit. Tel qu'avant la naissance, un engendrement a lieu, une semence est présente dans laquelle la vie existe, un germe de vie, et ensuite suit la naissance. C'est ainsi aussi dans le spirituel. D'abord, il faut que la naissance par l'Esprit ait lieu. C'est ainsi que c'était avec Marie. Et quand l'annonce fut faite de la naissance du Rédempteur, cela a eu lieu que l'ange Gabriel a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et ce qui naîtra de toi sera appelé, viendra du Saint-Esprit, sera appelé Fils de Dieu. Oui. Mais cela avait comme condition ce qui était écrit dans le psaume 2, tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais il faut qu'une fois pour toutes, cela soit dit clairement et que cela soit clair pour tous. Que, comme ça, naturellement, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que, d'une manière surnaturelle, l'Esprit de Dieu en nous crée la nouvelle vie, la vie de Jésus-Christ lui-même, et qu'elle soit manifestée, et que vraiment une expérience surnaturelle, une conversion, une nouvelle naissance, et bien sûr aussi le baptême d'esprit et de feu ait lieu. C'est ainsi que, pour que nous ne soyons pas comme ça, trompés, quittant ce temps, allant dans l'éternité, sans ces expériences nécessaires, peut-être même sur le lit de mort, espérer encore recevoir une dernière onction, ou bien alors un ensevelissement religieux. Cela n'aidera plus personne. La mort ne change rien. Et le pasteur qui ensuite tient la dernière prédication, le jour de l'enterrement, ne servira à rien. Seulement Dieu, et cela pendant notre vie, peut créer un changement, créer une nouvelle vie en nous par sa grâce, pour ainsi, avec Paul, pouvoir dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si ensuite, comme ça, nous avons atteint cette position d'enfant de Dieu et que nous sommes nés de nouveau par une espérance vivante, alors nous pouvons, par exemple, lire un Corinthiens et nous nous retrouvons ici de nouveau. Ici, il est écrit
dans
1 Corinthiens, en lui, 1 Colossiens, chapitre 1, verset 14. 1 Colossiens, chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption des péchés. Donc cela commence avec l'expérience que l'on fait personnellement avec Dieu. Une expérience du salut. Le salut devient seulement ton expérience personnelle si tu expérimentes personnellement de cette manière le salut. Paul pouvait regarder en arrière et ensuite dire, j'ai expérimenté la conversion, j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai vu la lumière surnaturelle et les mains lui ont été imposées et il pouvait de nouveau revoir et il fut rempli du Saint-Esprit et il s'est laissé baptiser. Pour la deuxième phase, et ça, c'est notre préparation pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans le Nouveau Testament, nous a été promis de manière répétée. Par exemple, dans Jean 14, déjà, notre Seigneur dit, je vais pour vous préparer une demeure et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Nous devons donc, comme ça, une fois pour toutes, voir ça de la bonne manière. Dieu, d'éternité en éternité, Dieu existe d'éternité en éternité, mais il a un plan, un dessein qu'il a conçu dans le plan, dans le temps. Et il a aussi un dessein qu'il a conçu avec l'Église du Nouveau Testament. Et Dieu a un dessein dans le plan, dans le temps, avec Israël. Et quand nous regardons dans l'histoire, en général, nous avons 2000 années du début jusqu'à Abraham, ensuite encore d'Abraham, 2000 années d'Abraham jusqu'à Christ. Et ensuite, nous avons encore les prochains 2000 années qui sont déjà dépassés, en fait. Et on doit le dire clairement, ensuite, c'est le millénium qui viendra. Ce sera le règne de Christ sur terre. Nous régnerons 1000 ans avec Christ. Ça, en fait, selon l'expression biblique, c'est le dernier jour. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire depuis la Pentecôte, alors qu'il y a 2000 années d'ici, l'Église fut fondée, a commencé. Les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. C'est pour cette raison que dans Hébreux chapitre 1, à partir de verset 1, il est dit que Dieu, par les prophètes, depuis le temps passé, a parlé, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé dans son Fils. C'est pour cette raison que Pierre, dans sa première prédication, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 16, a mentionné, disant que le déversement du Saint-Esprit, comme dans le prophète Joël, comme cela a été annoncé dans le prophète Joël, a eu lieu, et cela dans les derniers jours. Donc, un jour pour le Seigneur est comme 1000 années, et 1000 années pour nous sommes comme pour lui un jour. C'est ainsi que c'est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 10. Vous pouvez en fait déjà là commencer avec le verset 8 de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, car le verset 10 montre déjà que le jour du Seigneur viendra. Je ne peux pas venir entrer dans les détails de ces expressions importantes qui sont bibliques. Qu'est-ce que c'est que, par exemple, le jour du Seigneur? Ici, dans 2 Pierre, le chapitre 3, nous lisons concernant les moqueurs qui, à la fin des jours, donc dans la fin des temps, apparaîtront et demanderont, mais où reste le retour, où demeure, où reste l'accomplissement du retour du Seigneur? Tout reste comme ça a toujours été et comme c'est toujours. Et ensuite, la réponse suit au verset 8 de Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et ensuite, il est montré ici, au verset 9, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Non, il ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'ils puissent écouter le message divin, croire au Seigneur Jésus-Christ, car c'est en lui que Dieu, pour notre salut s'est révélé. Ensuite, nous lisons à partir du verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » En ce jour, on doit le dire. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le jour agréable, favorable. C'est ainsi que c'est écrit dans Ésaïe 49, c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Mais le temps de la grâce aura une fin. Le jour du salut va vers sa fin. Et le jour du Seigneur qui brûlera comme un four arrive. Et la revendication, donc la vengeance, arrive. Et le monde ira en flamme. C'est ainsi que c'est écrit. Je peux vous le lire. Au verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Cela arrive. Et après cette fin, il y aura un nouveau commencement. Mais d'abord, le règne de 1000 ans de paix, et ensuite un nouveau ciel et une nouvelle terre où rien que la justice et la sainteté, la paix et la joie existeront parmi tous ceux qui ont été rendus dignes et qui ont reçu ce privilège d'accepter l'offre de grâce de Dieu, de croire, de se mettre du côté de Dieu, de donner raison à Dieu. Ensuite, nous avons l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Pierre dit, écrit que nous devons être attentifs à la parole prophétique qui luit comme une lumière dans un lieu ténébreux. Nous sommes ici de nouveau dans un point très important et il faut que la chose suivante soit dite ici, bien-aimés, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, que la parole de Dieu est interprétée partout. Cherchez-moi, s'il vous plaît, un seul homme qui se tient devant la chair sans interpréter et transmettre ses propres pensées sur ce qu'il a lu. Et c'est le grand problème. Nous avons beaucoup d'églises libres, de dénominations dans tous les peuples sur terre. Et partout, dans chaque église des églises libres, et aussi tous ceux qui se tiennent devant la chair ont leur propre interprétation, leur propre opinion sur Dieu, sur la parole de Dieu et sur les sujets bibliques. Et cela n'est pas possible, n'a pas le droit d'être dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Chaque église, chaque communauté a le droit de croire ce qui est enseigné là-bas et a le droit de pratiquer ce qui est enseigné là-bas. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas soumise à un système humain. Elle n'est pas une Église ou bien Église libre. Elle n'a pas à rendre compte à une Église ou à une Église libre. L'Église de Jésus-Christ n'a qu'une seule obligation. C'est de croire comme l'a dit les Écritures, le plan de Dieu avec l'humanité. Et ainsi, de pratiquer les choses telles que la parole de Dieu depuis le commencement déjà le témoigne et telles que le Seigneur l'a ordonné. C'est pour cette raison que Pierre, dans sa première prédication, a dit à des milliers de personnes, « Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. » La repentance vient premièrement, la foi, la confession des péchés devant le Seigneur et ensuite l'acceptation, donc d'accepter son pardon accompli et ensuite comme confirmation, le croyant se laisse baptiser selon l'ordre missionnaire. Marc 16, verset 16, celui qui croit et qui se laisse baptiser. Et ensuite, ceux qui sont laissés baptiser et qui ont cru dans la première prédication, il leur a été dit, c'est ainsi que vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, mon devoir est de repartir à la prédication authentique des apôtres, à tous les enseignements tels qu'ils nous ont été transmis dans les saintes Écritures. Bien-aimés amis, bien-aimés frères et sœurs, ensuite, il y a cette pensée qui concerne notre préparation, car il est écrit dans Matthieu 25, verset 10, tous ceux qui furent prêts entrèrent dans le repas des noces, au festin des noces. Dans Apocalypse 19, verset 7, il est dit, et son épouse s'est préparée. Là, il est parlé du festin des noces de l'agneau. Il est parlé de l'enlèvement. Ensuite, nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, que Enoch marchait avec Dieu et fut subitement enlevé et ne fut plus trouvé sur terre. Dans Matthieu 24, nous lisons, deux seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux seront à une meule, deux travailleront au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Donc, seulement ceux qui sont vraiment prêts prendront part à l'enlèvement, pourront prendre part à l'enlèvement. Et ici, nous sommes arrivés à ce point très important. Notre préparation peut seulement avoir lieu si la volonté de Dieu dans notre vie peut avoir lieu. Pas seulement prier que ta volonté soit faite, comme donc sur la terre comme au ciel, mais comme notre Seigneur disait, nous ici, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, et il a donné lui-même la réponse, tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est au ciel, ce sont ceux-là qui sont mes frères et qui sont mes sœurs. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? D'abord, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous viennent à la connaissance de la vérité. Mais nous avons, et cette parole merveilleuse de Paul adressée à Timothée, que le temps viendra, c'est-à-dire la fin des temps, où beaucoup parleront, où beaucoup, où il y aura l'apostasie, où beaucoup tomberont de la foi et courront, iront après des doctrines de démons. Et ensuite, dans Matthieu 24, notre Seigneur parle des faux prophètes, parle des faux oints, parle des faux Christ, des faux oints. et beaucoup les suivront. Aujourd'hui, celui qui va à cette église, qui appartient à cette église, pourrait dire aux autres, ce sont des faux prophètes, parce qu'ils enseignent autrement que nous. Non, ici, il ne s'agit pas de ça. Faux prophètes et faux oints et faux apôtres, ce sont ceux qui n'enseignent pas ce que Christ a enseigné et qui ne pratiquent pas ce que les apôtres ont pratiqué et qui ne sont pas en accord avec ce que Christ et avec ce que les prophètes et les apôtres ont enseigné et ont pratiqué. Ça, ce sont les faux. Vrais sont ceux qui, dans l'enseignement, dans la vie, dans la pratique, sont en accord parfait avec ce que Christ a ordonné, avec ce que les prophètes ont prêché et avec ce que les apôtres ont enseigné et ont pratiqué. Donc, pas comme ça simplement de tamponner les autres comme faux et les déclarer de faux, mais de se soumettre à la parole de Dieu devant le miroir et de se demander mais et dans quel état moi-même je suis, dans quel état moi-même je suis, est-ce que moi-même je suis en accord avec Dieu, avec sa parole, est-ce que je marche sur les traces de la foi et de l'enseignement tel que cela nous est transmis dans la parole de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. S'il vous plaît, croyez-moi. Alors que frère Branham, en 1933, avait reçu l'ordre, reçu le ministère, avait reçu l'ordre d'exécuter son ministère, il lui a été dit, avait reçu le mandat, il lui a été dit, de la lumière surnaturelle, d'une nuée surnaturelle qui est descendu, il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Maintenant, la question, est-ce que le ministère de Jean-Baptiste était nécessaire dans le destin du salut? Est-ce qu'il fallait absolument que ce ministère soit déroulé, se déroule? Regardons dans le Saint-Testament, Ésaïe 40, verset 3, et dans Malachie 3, en français 4, verset 5, est-ce que n'avait-il pas été promis à l'époque? Si, bien sûr, il fallait que ce ministère soit exécuté. Pourquoi? Parce que ce ministère de Jean-Baptiste était une partie du destin du salut pour l'époque d'autrefois, lors de la première venue du Christ. C'est la même manière encore maintenant. Dieu a dit, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. De 2 Pierre, chapitre 3, j'ai lu tout à l'heure. Le jour du Seigneur vient, il brûlera comme un four. En lui, les éléments s'embraseront en fracas. Mais avant que ce jour terrible et redoutable de la colère divine et de la vengeance arrive, Dieu a promis qu'il enverrait avant cela un prophète comme du format d'Élie pour justement nous ramener à la parole, pour que nos cœurs soient touchés et préparés et que nous puissions revenir à la foi biblique telle qu'elle existait au commencement auprès de nos pères, dans nos pères, les apôtres. Il s'agissait que nous soyons ramenés à cet état divin. Primitif, mon devoir, c'est de prêcher en accord avec l'enseignement des apôtres et d'apporter les Saintes Écritures aux hommes et de leur dire, nous vivons, s'il vous plaît, à la fin du temps de la grâce et l'appel à sortir et la préparation pour la préparation de l'Église retentit maintenant. L'appel à sortir pour la préparation de l'Église du Christ retentit maintenant. Je peux seulement que dire que ce n'est qu'à des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. S'il vous plaît, écoutez, car Dieu parle encore par sa parole, pas par les interprétations. Par toutes les interprétations, l'adversaire, lui, a égaré les hommes, mais Dieu, lui, il nous parle par sa sainte parole, encore aujourd'hui. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Et si nous demeurons dans cette parole et que cette parole demeure à nous, alors nous aussi, nous serons bénis et serons trouvés dans la volonté de Dieu, quand notre Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui. Que Dieu vous bénisse tous et soit avec vous tous. Amen. J'entends encore croire seulement. Ensuite suivra la deuxième émission de télévision. Mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, je vous salue très cordialement dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons le grand privilège d'avoir ces émissions et de parler avec vous de Dieu et du dessein merveilleux du salut de Dieu avec l'humanité. Pour moi, c'est un grand privilège. Je suis aussi responsable de l'émission. Mon nom est Frère Frank. La plupart me connaissent déjà. Depuis plus de 50 ans, je suis occupé à la prédication de la parole de Dieu. Depuis 44 ans, j'ai entrepris des voyages dans le monde entier et j'ai visité 134 pays et plusieurs de ceux-là, de plusieurs fois. Et ça a été ainsi possible de prêcher le message merveilleux de l'Évangile, le message de Dieu avec toutes les promesses que le Seigneur, dans sa parole, nous a données pour atteindre les vrais croyants et leur confier ce que Dieu, les informer de ce que Dieu a conclu dans son dessein du salut. Il s'agit simplement de ce que l'Église de Jésus-Christ, maintenant, à la fin du temps de la grâce, soit apportée dans le même état, qui existait, qu'avait l'Église primitive, d'être revêtue de la même puissance d'en haut et d'avoir le même ordre missionnaire et la même puissance et que tout le dessein du salut de notre Dieu soit prêché et que des hommes qui vraiment sont vraiment croyants se laissent baptiser bibliquement par immersion une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que ainsi la foi et l'obéissance en tous soient atteints pour que l'accord avec Dieu et sa parole soit une fois pour toutes présent. Tous nous savons que déjà dans l'Église primitive, il y a eu des hommes qui ont apparu, qui étaient contre les apôtres et qui ont prêché des choses, enseigné des choses qui n'étaient qui ne faisaient pas partie de la prédication authentique. Il y en a qui prétendaient déjà autrefois qu'il n'y aurait pas de résurrection. D'autres prétendaient déjà que la résurrection aurait déjà eu lieu. D'autres se sont même laissés même baptiser pour les morts. Et ensuite, il y a eu un Yannès et Zambres qui ont apparu comme un Yannès et Zambres et qui ont eu leur donc leur tromperie comme dit de Moïse. Et c'est ainsi que Paul a dit que c'est ainsi que ce sera à la fin des temps. Et notre Seigneur a même annoncé à l'avance des faux prophètes et des faux Christ, des hommes qui apparaîtront et qui donneront l'impression qu'ils agissent sous l'ordre du Seigneur et qui prêchent au nom de Jésus-Christ. Et malgré tout, leur enseignement et leur prédication n'est pas en accord avec celle des apôtres et des prophètes. Et ça, c'est le grand problème. Nous devons, et ça, c'est vraiment un devoir, une obligation divine. Nous devons lire qu'est-ce qui a été prêché, qu'est-ce qui a été enseigné par les apôtres. Qu'est-ce qui a été enseigné sur la divinité? Qu'est-ce qui a été enseigné sur le baptême biblique, le baptême d'eau biblique? Qu'est-ce qui a été enseigné sur le souper du Seigneur, sur la première résurrection, sur la deuxième résurrection? Qu'est-ce qui a été enseigné en relation avec Israël? Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les promesses qui ont été données à l'Église? Nous devons lire et arrêter d'aller de soi que tous enseignent correctement. Non. Ce qui est correct est seulement écrit dans la Bible. S'il vous plaît, croyez-moi. Ne croyez pas que vous n'avez pas besoin d'examiner. Il n'y a aucun livre sur terre en dehors de la Bible dans lequel Dieu vraiment parle avec nous. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu a dit toutes choses, tout ce qu'il avait à nous dire. Il a tout dit, tout enseignement biblique, toute pratique biblique, tout et encore une fois tout est déjà écrit dans les Saintes Écritures. Bon, mais les Écritures sont, n'est-ce pas, interprétées de centaines de fois, de milliers de fois de manière différente et les hommes sont toujours sous l'impression que ici il s'agit de la parole de Dieu et que alors que ce n'est même plus le cas, alors que ce n'est même plus le cas. Et la parole de Dieu, il s'agit seulement de la parole de Dieu si nous lisons la Bible. Pas si un évangéliste ou bien un charismatique vient en se garnissant avec des interprétations sur les Saintes Écritures. Non, 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 non. Ça, ce n'est plus la parole de Dieu. Ça, c'est parole d'homme. Et ça, nous devons bien, dans tout le sérieux, discerner les choses. Je me répète encore. Si, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il est écrit « Et il demeurait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion. » Actes apôtres, chapitre 2, verset 42. Alors quelqu'un peut venir et 100 fois lire ce verset et prêcher là-dessus et ne pense même pas à demeurer lui-même dans l'enseignement des apôtres. Il peut même prêcher sur Actes apôtres 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et il ne peut même pas penser à tenir le souper du Seigneur comme il a été tenu par le Seigneur lui-même et par les apôtres. Qu'un seul pain a été cuit sans levain et qu'il y avait une coupe et que le pain a été béni et brisé. Ensuite, la coupe a été bénie et ensuite distribuée, partagée. C'est ainsi que c'était dans l'Église primitive. Et il n'était pas nécessaire qu'une personne comme ça, un dignitaire, quoi, soi-disant spirituel, vienne. Non. Ils ont fêté cela dans leur maison. Ils se sont réunis dans les maisons, tous ceux qui étaient devenus croyants bibliques et qui t'es conduit par le Saint-Esprit. De la même manière, avec le baptême, il y a vraiment seulement qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Et si nous nous regardons dans le christianisme, tous baptisent comme ils veulent. Les uns baptisent des nouveau-nés, les autres baptisent par immersion devant, d'autres baptisent combien de fois par immersion derrière. Il y en a même qui baptisent trois fois derrière parce qu'ils pensent que selon Matthieu 28 au verset 19, celui qui se laisse baptiser doit être baptisé par immersion trois fois, une fois au nom du Père, ensuite au nom du Fils et ensuite au nom du Saint-Esprit. Comme s'il y aurait trois noms, un tel baptême n'existe pas dans les actes des apôtres et non plus dans l'Église primitive. Ils n'ont ni baptisé des nouveau-nés ou bien aucune personne n'a été baptisée trois fois par immersion. Ils ont simplement compris, les apôtres ont compris, révélé par l'Esprit de Dieu que le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit s'est révélé Seigneur Jésus-Christ. Est Seigneur Jésus-Christ, car le Fils a le nom du Père et le Fils a révélé le nom du Père. Et tel que c'est dans le terrestre, le Fils a le nom de son Père et reçoit le nom de son Père. C'est ainsi que le nom du Père et le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit est le même nom, sont le même nom. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Et de la même manière, la désignation Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dans le Fils, le Père lui-même vint à nous. Et c'est ainsi que le Fils pouvait dire « Celui qui me voit a vu le Père ». L'évangile de Jean, le chapitre 14. Donc, le devoir qui maintenant, donc l'ordre qui nous a été maintenant, que nous avons maintenant reçu de Dieu consiste à ce que la prédication originale, les pratiques des apôtres dans tous les enseignements bibliques de manière nouvelle soient placés sur le chandelier. Et il faut que cela soit dit toujours de nouveau. Dieu, dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, a toujours eu à utiliser des hommes qu'il a appelés et qu'il a déterminés à des devoirs bien précis et qu'il a aussi envoyé. Par exemple, il y avait Abraham, un prophète, un homme qui avait une communion personnelle avec Dieu. Et les promesses merveilleuses ont été données à Abraham et à sa descendance, à sa semence. Dans le Nouveau Testament, Abraham est appelé le père de la foi et le père des croyants. Abraham croyait Dieu, pas ce qu'il avait vu. Il ne croyait pas seulement parce qu'il avait vu quelque chose. C'est parce qu'il avait vu qu'il impressionnait seulement, mais pour lui, la promesse que Dieu lui avait faite était devenue toute chose sans l'avoir vue d'abord s'accomplir. C'est ainsi que nous avons tous les autres hommes de Dieu. Moïse, un homme particulier de Dieu. Il avait reçu un ordre unique sur terre qu'il devait exécuter. Moïse connaissait Dieu personnellement. Abraham connaissait Dieu personnellement. Tous les prophètes connaissaient Dieu personnellement. Et tout Israël expérimentait, n'est-ce pas, que Dieu, le Seigneur, voyait, n'est-ce pas, que Dieu, le Seigneur, dans la colonne de feu et dans la nuée, descendait lui-même. Et que, à l'entrée de la tente d'assignation, de manière visible pour tous, dans la colonne de feu surnaturelle, il apparaissait et qu'il parlait avec Moïse de face à face. Tous les prophètes avait une communion personnelle avec Dieu. Maintenant, le passage dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste pouvait dire, en relation avec notre Seigneur et Rédempteur, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser m'a dit, celui sur lequel tu vois l'Esprit descendre et rester, il est celui qui baptise d'Esprit et de feu. » Jean-Baptiste avait aussi une relation personnelle avec Dieu. L'ange Gabriel vint et avait donné un ordre à son papa Zacharie, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ça, nous devons le savoir. L'action surnaturelle de Dieu appartient au Nouveau Testament. Si Dieu n'est pas présent, rien de surnaturel se passe. Nous voyons lors de la naissance de notre Seigneur. D'abord, l'annonce par l'ange Gabriel, le Saint-Esprit te couvrira, viendra sur toi et te couvrira de son ombre, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, oui, oui. Et ensuite, ce qui naîtra de toi vient du Saint-Esprit. Mais c'est justement au moment de la naissance que tout le ciel est descendu pendant la nuit, et cette ville a été éclairée, et la chorale céleste a chanté, et un ange a donné l'annonce dans Luc chapitre 2 verset 11, car aujourd'hui le Sauveur vous est né, Christ le Seigneur. Et aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons l'action surnaturelle de Dieu. Nous pouvons regarder dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, nous pouvons lire dans tous les autres apôtres. Ils ont rendu témoignage de l'action surnaturelle de Dieu et qu'ils l'ont expérimenté personnellement. Un appel divin, un envoi. Ils ont entendu audiblement la voix du Seigneur. Et cela nous ramène jusqu'à Jean, l'apôtre, qui était sur l'île de Patmos et qui avait reçu, voyait les dernières visions, qui voyait la fin des temps, qui voyait ce qui allait arriver jusqu'à que les nouveaux cieux et la nouvelle terre arrivent, existent. Et qu'est-ce que nous lisons ensuite dans Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, que Dieu a envoyé un ange pour lui révéler tout cela, pour lui montrer tout cela. Et ensuite, dans Apocalypse, chapitre 22, encore une fois, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester toutes ces choses. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, pourquoi est-ce que, brièvement, j'ai mentionné toutes ces choses? Pour simplement vous dire que frère Branham, réellement, de la même manière, a expérimenté personnellement l'action surnaturelle de Dieu. Déjà en 1933, la lumière surnaturelle, en présence de à peu près 4000 personnes sur le fleuve l'Ohio, a apparu aux États-Unis. Alors que frère Branham était en train de baptiser la septième personne bibliquement d'eau. Et voilà que de cette lumière surnaturelle qui était restée suspendue sur la tête de frère Branham, la voix a retenti, disant, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Je vous pose la question. Est-ce que nous vivons encore dans les temps de la Bible? Est-ce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement? Est-ce que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui? Est-ce que l'Église existe encore, ou bien est-ce que nous avons seulement comme ça, un christianisme comme ça en général, dans lequel il y a des communautés, des églises libres, églises, etc. Non, mon devoir est de m'adresser à ceux qui vraiment appartiennent à l'Église de Jésus-Christ et qui croient à l'action surnaturelle de Dieu qui a lieu encore aujourd'hui et qui ont part à cette action surnaturelle. De frère Branham, je voudrais encore mentionner une expérience qui a eu lieu le 7 mai 1946. L'ange de l'Éternel vint à frère Branham dans la pièce où il était. La lumière, une lumière surnaturelle entra dans la pièce où il était. Et l'ange de l'Éternel a dit, tel que à Moïse, tel qu'à Moïse, deux signes ont été donnés, c'est ainsi que toi aussi, à toi aussi, deux signes seront donnés. Un don de guérison divine t'a été donné. Et Dieu sera avec toi. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je dois mentionner cela? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de vous le cacher? Parce que Dieu est dans la chose. Je ne suis pas responsable de tout ce que les hommes ont comme programme. Et ça ne m'intéresse pas non plus. Et ça, je peux le dire dans l'humilité. J'ai aussi reçu un appel divin. Cela peut s'entendre un peu arrogant ou bien peut-être que vous êtes étonné. Mais moi, frère Franck, le 2 avril 1962, c'était un lundi matin, directement avant le lever du soleil, j'ai entendu audiblement la voix du Dieu Tout-Puissant avec ses oreilles naturelles, en langue allemande. Et chaque parole était claire, prononcée. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. En un coup, à l'instant prochain, je me suis retrouvé par terre. Donc la voix est venue de la droite, mais je suis tombé à gauche. Ces paroles sont si vraies, sont vraies telles que chaque verset biblique est vrai. Dans la Bible, je n'ai pas besoin d'inventer une histoire pour vous la raconter. Je peux vraiment, comme les prophètes et comme les apôtres, parler de cet appel divin. Je peux aussi rendre témoignage avoir reçu un appel divin, un envoi divin. Et je dois aller de ville en ville et de pays en pays pour apporter le merveilleux message de Dieu avec toutes les promesses de Dieu pour cette époque. Car c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de l'évangile éternel. Il s'agit de l'enseignement biblique. Il s'agit de la parole prophétique. Il s'agit de ce que sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, fondamentalement, sur tous les sujets bibliques, sur chaque enseignement biblique, il s'agit que tout soit tel que c'était dans l'Église primitive. Et cela dans l'ordre divin, dans un accord parfait avec les Saintes Écritures. C'est peut-être raison que nous rejetons chaque interprétation des Saintes Écritures. Nous acceptons seulement que la foi en ce que dit vraiment l'Écriture et enseigne vraiment l'Écriture. Et c'est peut-être raison que je voudrais encore le dire en insistant. Donc, mesdames et messieurs, bien-aimés amis, précieux frères et sœurs, maintenant, il s'agit, avant le retour de Jésus-Christ, d'appeler à sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu, d'expérimenter d'abord notre sortie de tout Babylone, de vivre séparé dans la parole de la vérité, être sanctifié par l'esprit de la vérité, car c'est ainsi que c'est écrit. sans sanctification. Hébreu 12, verset 14. Personne ne verra le Seigneur. Et c'est ainsi que c'est écrit aussi. Sanctifie-les dans ta vérité. Jean 17, verset 17. Ta parole est la vérité. Nous devons prendre les choses au sérieux et les regarder en face. Bien-aimés frères et sœurs, le retour du Seigneur est vraiment devant la porte. Et toujours, il est écrit dans Matthieu 25, verset 10, « Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau. » Matthieu 25, verset 10, « Et les portes furent fermées. » Est-ce que c'est difficile pour vous de croire que Dieu a promis un prophète pour notre époque, qui devait venir avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel, pour ramener le cœur des enfants de Dieu, de nouveau, à la foi des pères apostoliques, pour rétablir toutes choses dans l'état primitif, de rétablir toutes choses, restaurer toutes choses. Je suis convaincu que par ce dernier message divin, tous ceux qui sont déterminés à appartenir à l'Église épouse seront appelés à sortir. Prêterons l'oreille à ce message. Nous n'allons pas pouvoir obliger qui que ce soit. Nous n'allons pas non plus menacer qui que ce soit. Mais nous allons, comme Paul a dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, toujours de nouveau, nous allons dire, soyez réconciliés avec Dieu. Car Dieu est celui qui vous avertit par nous. Et j'espère que Dieu a pu parler à nos cœurs, à tous, par sa parole, et que nous prenons au sérieux le message de l'heure. Nous allons dans la prière, nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous lui demandons de nous accorder de la clarté et de nous conduire et d'être avec nous, de nous accorder toutes ces choses, et il sera avec nous, il nous les accordera par sa grâce. Encore une fois, je voudrais dire que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église, a à dire à l'Église. L'Esprit parle à tous ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ. Il marche encore. Notre Seigneur marche encore parmi les sept, au milieu des sept chandeliers d'or, comme cela nous est décrit dans Apocalypse, le premier chapitre, le deuxième chapitre et le troisième chapitre. Que Dieu le Seigneur vous bénisse tous et soit avec vous tous, dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons, crois seulement, crois seulement. Merci. Je crois que tous, nous avons assez de raisons pour remercier le Seigneur, notre Dieu, pour la grâce qui nous a été faite, pour ce témoignage merveilleux que nous avons de nouveau entendu ce soir, aussi pour le messager que Dieu a envoyé et a appelé pour que ce message qu'il a confié à son serviteur le prophète Frère Branham soit porté dans, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce message, je l'appelle à sortir de la préparation de l'Église épouse. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais je suis reconnaissant à Dieu pour Frère Frank, pour sa fidélité qu'il a prouvée durant toutes ces années et qu'il a servi le Seigneur. C'est vraiment la première fois qu'il ne peut pas être ici, ou encore une fois où il était malade de la malaria, encore une fois, mais le Seigneur a fait de grandes choses et la parole a été prêchée dans le monde entier. Dans cette prédication, nous avons encore entendu parler de 143 pays, maintenant il y en a plus, il y en a 155, il y a 155 pays, et où alors encore plus, nous voyons que le Seigneur est encore à l'œuvre et que la parole est portée. Mon cœur se réjouit de ce que nous avons la grâce d'appartenir à ce troupeau et par la parole être ramené à l'enseignement des apôtres. Ce témoignage me réjouit et aussi tous les versets bibliques que nous avons écoutés aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne savais même pas qu'aujourd'hui les choses allait être ainsi. Nous avions, avec Frère Frank, décidé en fait de faire écouter une prédication de Frère Branham, mais déjà parallèlement à cela, des frères avaient déjà eu le désir que les prédications de Berlin soient portées. On a aussi en parlé avec Frère Frank, mais je viens seulement de l'apprendre maintenant. Mais à la maison, tout à l'heure, je m'étais fait de profondes pensées sur notre état actuel, l'état de l'Église en général, et comment est-ce que les choses doivent aller de l'avant avec nous tous. Et toujours de nouveau, mais mon attention est sont venues aux promesses de Dieu que Dieu a données pour notre temps. Et c'est la chose la plus importante, bien mes frères et sœurs, que nous puissions avoir cela devant les yeux, ce que Dieu a préparé pour nos jours. Ça commence avec la promesse dans Malachie chapitre 4, verset 5 en français, comme aussi de cette prédication, nous l'avons entendu ce soir, qu'il enverra le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, pour ramener le cœur des enfants au Père. C'est une double promesse. Nous savons que la première partie s'est accomplie avec Jean-Baptiste, que les pères croyants ont été conduits aux apôtres, aux enfants. C'était le commencement. Et maintenant, ça accomplit la deuxième partie. Lors de la première venue du Christ, ce n'était pas encore le grand trait redoutable de l'Éternel, mais le jour glorieux, le jour du salut, le jour favorable, le jour, le temps de la grâce. Mais maintenant, c'est de nouveau comme l'avons entendu, 2000 années qui sont passées. Et nous vivons avant le jour du Seigneur, comme nous l'avons entendu aussi, que les moqueurs apparaîtront et diront où reste l'accomplissement de sa promesse. Nous voyons dans notre temps comment est-ce que toutes les prophéties bibliques s'accomplissent, et particulièrement Matthieu 24, où notre Seigneur a dit que dans ce temps, de faux prophètes, de faux oints, de faux Christ apparaîtront et égareront plusieurs, beaucoup. Le frère Frank a toujours dit en insistant, et nous le savons, mais de quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit que nous puissions avoir les promesses de Dieu devant les yeux. Et nous avons les promesses merveilleuses, bien mes frères et sœurs, les plus grandes promesses. La plus grande promesse est celle de Jean, où le Seigneur a dit au chapitre 14, « Je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. » Et nous attendons son retour, qu'il puisse nous prendre. Et ensuite, cette promesse merveilleuse dans Apocalypse 3, « Que celui qui vaincra, s'assiera avec moi sur mon trône, tel que j'ai vaincu. » Bien, mes frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande promesse et glorieuse que ça, que nous puissions, avec notre Seigneur, être unis. Il ne s'agit pas de régner pour nous, mais le Seigneur nous a rachetés en tant que son épouse. Nous sommes son épouse qu'il a rachetée et acquis. Et nous vivons maintenant dans le temps de la préparation. Nous avons toujours de nouveau entendu et son épouse s'est préparée. Et ensuite, elle a été enlevée et la porte fut fermée. C'est le temps maintenant de la préparation et nous voyons les signes des temps s'accomplissent devant nos yeux. Le frère Frank l'a mentionné dans le petit mot de salutation qu'une nouvelle phase apparaît. Et je crois de tout mon cœur que le retour de Jésus-Christ est proche devant nos yeux comme jamais auparavant et que tous nous devons travailler au sérieux avec crainte et tremblement pour notre salut, mettre tout de côté, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu et chercher la face de Dieu comme jamais auparavant. Bien, mes frères et sœurs, nous devons expérimenter tout ce que les croyants dans l'église primitive ont expérimenté avec Dieu. La nouvelle naissance, la régénération par l'esprit, la conversion, d'être rempli de cet esprit et de feu. Bien, mes frères et sœurs, c'est le temps que nous puissions chercher la face de Dieu avec le sérieux. Moi, en tant que premier, ces paroles me touchent. Et ces jours m'ont mis au coin et m'ont obligé à chercher, comme j'avais auparavant, la face de Dieu. Et j'ai écouté plusieurs prédications de Frère Branham. Et dans chaque prédication, il a mis l'accent sur les promesses de Dieu pour notre temps. Et que l'épouse d'Église doit être préparé et se séparer de tout ce qui ne vient pas de Dieu et ne plaît pas à Dieu. Et sûrement, tous, vous êtes des gens sûrement qui lisent la parole de Dieu, qui lisent les brochures et le message du temps de la fin. Car pourquoi est-ce qu'un message est là? Pour que nous soyons préparés en tant qu'épouse. Et il est important de lire, de prendre le temps pour prier et nous séparer de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la volonté de Dieu. Dieu veut nous sanctifier dans sa vérité et dans sa parole. Et nous sommes ce soir ici et je crois que tous, nous voulons maintenant chercher la face de Dieu dans la prière et nous voulons nous lever pour cela. Et je voudrais demander que plusieurs frères, vraiment, brièvement, élèvent la voix et remercient le Seigneur. Je ne veux pas appeler un frère, mais le cœur de celui qui brûle, qui puisse élever la voix et remercier le Seigneur en quelques phrases. J'entends tel que je suis, tant rien de moi.
Ich danke dir, dass du uns die tollen Verheißungen wieder vor Augen geführt hast, Herr, die für unsere Zeit jetzt wichtig sind, Herr. Herr, ich danke dir, Herr, dass du in unser Herz das Verlangen danach gestellt hast, Herr, dass diese Verheißungen, Herr, in meinem, in unserem Leben in Erfüllung gehen, Herr, mein Gott. Ich danke dir für die Belehrung, die wir empfangen durften, Herr, in dieser Zeit, Herr. Nicht, Herr, dass wir Wissen aufhäufen, Herr, sondern dass wir wissen, Herr, wie spät es an der Uhr ist, Herr, damit du uns zubereiten kannst, Herr, durch dein wunderbares und heiliges Wort, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir in dieser Zeit der Zubereitung leben dürfen, Herr, mein Gott. Dass du an unseren Herzen wirkst, Herr, durch dein kostbares und heiliges Wort, Herr, das auf den Leuchter gestellt worden ist, Herr, in dieser Zeit, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, segne uns alle gemeinsam, Herr, hier an diesem Ort, Herr. Herr, ich bitte dich, segne deinen Knechten und Boten, Herr, der dein Wort treu ausgeteilt hat, Herr, all die Jahre lang, Herr, mein Gott. Ich danke dir, Herr, dass die Verbindung zu dir hergestellt worden ist, Herr, durch die Verkündigung deines kostbaren Wortes, Herr. Und dass unser Glaube, Herr, der in uns gewachsen ist, Herr, mein Gott, Herr, in den Verheißungen verankert ist, Herr, die du uns gegeben hast, Herr. Dir sei für alles Lob und Preis und Dank dargeboten, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Treuer Vater im Himmel, in Jesu heiligem Namen, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, wie sich deine Verheißungen erfüllen.
Ja,
Gloria deinem herrlichen Jesus-Namen. Amen.
Amen.
Nous voulons encore ensemble élever la voix. Père céleste, nous regardons au trône de la grâce où le sang de l'agneau pour nous ce soir parle. Ô Seigneur, regarde-nous par l'œuvre de Golgotha et agis, produis en nous ce qui t'est agréable. Apporte-nous dans l'état primitif agréable à tes yeux pour que tes promesses en nous trouvent leur accomplissement. Agis en nous, produis en nous tout ce qui t'est agréable, comme tu étais avec ton serviteur Enoch, qui marchait avec toi, et tu lui as montré ta volonté, ainsi que nous soyons liés avec toi. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Nous te remercions de ce que tu as envoyé ton serviteur qui, dans toute la véracité, nous a prêché ta parole. Nous te remercions aussi pour notre bien-aimé frère Franck, ton serviteur, qui nous a prêché ta parole fidèlement. Tous ces mystères merveilleux ont été placés sur le chandelier, accessibles à tous, clairs pour tous, révélés par ton Saint-Esprit. Nous avons la grâce de marcher dans cette lumière sans nous heurter. Ô Seigneur, accorde-nous l'obéissance et la foi pour que nous puissions ne pas seulement écouter la parole, mais ce que nous avons écouté, le mettre en pratique. Nous avons besoin de ton secours, de ton intervention. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Que ton esprit produise en nous le vouloir et le faire pour que nous te soyons agréables. Ô Seigneur, nous consacrons à toi. Ôte de nous tout ce qui n'est pas en accord avec ta parole. Purifie et sanctifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Pardonne tous nos manquements. Accorde-nous d'être dans ta directe présence, liée avec toi et liée les uns avec les autres dans l'amour divin. Oh, ramène-nous à l'état primitif, au premier amour, au premier fruit de l'esprit, pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te le demandons de tout notre cœur. Glorifie ton nom. Crée à ton nom de la gloire, de l'honneur. Libère-nous de toute la tiédeur et la paresse. Et remplis nos cœurs de désirs ardents, de soif envers le Dieu vivant, que nous ne pouvons pas attendre d'être dans ta présence. Ô Seigneur, je te demande, vivifie ton œuvre. Bénis tous, de loin et de près, qui sont en ligne. Tu connais aussi tous les problèmes, tous les soucis de tes enfants. Nous te remettons encore toutes choses dans la foi et dans la confiance que tu interviendras et que tu as déjà rendu toutes choses bien à Golgotha. Tu as vaincu le diable, l'adversaire, complètement dépouillé, désarmé. Et cette victoire de Golgotha nous appartient. Seigneur, nous louons ton Saint-Nom. Nous exaltons ton Saint-Nom, car tu es notre Rédempteur. Tu es notre Seigneur et notre Époux. À toi soit l'adoration, à toi soit la louange et l'adoration et l'honneur. Bénis-nous, Seigneur, et sois avec nous. Et sois aussi avec ton serviteur et messager. Fortifie-le pour qu'il, avec un nouveau courage et refuge, puisse rendre témoignage devant les grands et les petits, partout où tu l'enverras. Nous te demandons aussi, ouvre encore les cœurs, les oreilles, accorde un désir dans les cœurs envers ta parole, comme tu l'as promis, pour que les hommes puissent entendre la vérité. Ô Seigneur, accorde encore ta grâce avant que le jour redoutable de l'Éternel, jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Appelle les derniers à sortir, à s'ajouter. Nous te faisons confiance pour cela, que tu feras toutes choses bien. À toi sans l'honneur, la gloire et l'adoration, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. J'entends le cœur, ainsi je t'adore. Amen. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais je crois que le Seigneur a parlé avec nous tous par sa parole, et nous sommes pleins de joie et pleins de confiance que demain, il nous fera encore grâce et parlera à nos cœurs. Nous voulons rester dans le calme et dans le recueillement lié avec le Seigneur. Cherchez la présence. Ne cherchez pas des entretiens inutiles, mais cherchez des choses qui vous rapprochent de Dieu. Et nous sommes ici dans la maison de Dieu. Nous venons, c'est pour nous préparer. Nous venons dans le recueillement, avec un désir ardent dans notre cœur d'expérimenter de manière surnaturelle le Dieu vivant. Et dans la prière, que le Seigneur puisse vraiment bénir, pour qu'il puisse bénir et se manifester, que le Seigneur soit avec vous. Et nous vous demandons de veiller à l'ordre du centre missionnaire, de le lire à chaque entrée et d'être calme dans les dortoirs, de ne pas déranger. Nous vous demandons cela. Merci. Jusqu'à demain matin. Déjeuner à 8h. Amen. Saluez-vous les uns les autres et souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu.